Je vais demander à Célina Ramjoué de nous rejoindre. Voilà. Qui va nous parler donc des données de la recherche dans Horizon 2020, enjeux pour la recherche en Europe. Et je pense qu'il est intéressant de considérer que cette présentation a déjà été annoncée assez largement lundi, puisque Célina travaille dans l'unité dirigée par José Cota, qui a été finalement l'ouvreur de ces journées et qui avait présenté ce panorama assez général des questions de l'open science et essayé de donner un certain nombre de définitions de ce qu'est l'open science.
Merci beaucoup. Donc, merci de cette introduction, merci de l'invitation. C'est un réel plaisir d'être là ce matin. Donc, effectivement, vous avez eu l'intervention de José Cota lundi, qui vous a donné le contexte plus large de Open Science. Et donc, en fait, lundi, pendant que José vous parlait, à Bruxelles, nous tenions une conférence sur le thème des modèles alternatifs de publication en open access. Donc, en parallèle, nous avions cette session et je suis par après que certains d'entre vous suivaient même un petit peu en web stream. Donc, ça m'a fait plaisir. Donc, ce que je ferai aujourd'hui... Pour que vous me voyez, c'est ça. Bon, donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter ce que José vous a présenté lundi. Je vais plonger dans le thème des données de recherche et notamment dans Horizon 2020. Et alors, j'essaierai aussi de parler un petit peu du thème de fouille des données, donc de TDM, Text and Data Mining, sachant que dans ce secteur-là, on n'a pas encore de politique bien formée. Mais j'essaierai quand même de vous dire quelques mots là-dessus. Et alors, je sais évidemment que ces journées Open Access sont extrêmement propices parce que vous avez en cours, évidemment, une discussion en France sur votre loi numérique. Donc, nous, déjà, on trouve ça magnifique qu'il y ait une discussion en ligne de cette loi. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et alors, on suit avec intérêt le débat. On sait que la consultation se termine très bientôt. Et je sais qu'il y a une session aujourd'hui là-dessus. Donc, bravo. Et voilà, je serais curieuse de voir ce qu'il en sort. Donc, voilà. Moi, ce que je vais faire avant de passer plus précisément à ce qu'on fait dans Horizon 2020, c'est que je vais vous donner un petit cadrage politique. Donc, nous avons depuis maintenant à peu près un an une nouvelle Commission européenne. Vous voyez ici les trois personnes qui sont un peu en tête des dossiers numériques et de recherche. Donc, vous avez un vice-président, Andrus Ansip, qui s'occupe du marché unique numérique, de manière générale et globale. Puis vous avez Günther Oettinger, le commissaire de l'économie et de la société numérique. Et alors vous avez Carlos Moedasch, le commissaire pour la recherche, la science et l'innovation. Donc, qu'est-ce qui s'est fait d'important en termes de cadrage? Vous le savez, c'est l'adoption d'une stratégie sur le marché unique numérique en mai 2015. Et donc, le marché unique numérique, c'est un espace dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux est garantie. Voilà, c'est la définition. Donc, c'est bien calqué sur le marché intérieur. C'est exactement l'idée du marché intérieur, mais pour le numérique. Et alors, dans cette stratégie qui est très vaste, qui comprend beaucoup de sous-parties, il y a des sections spécifiquement pertinente pour nos thèmes à nous. Notamment, il y a toute une section sur la construction de l'économie des données, le data-driven economy. Et donc, il est dit dans cette section que les données sont souvent considérées comme un catalyseur de croissance économique, d'innovation et de conversion au numérique dans tous les secteurs économiques. Et dans cette section-là de la stratégie du DSM, il est aussi mention d'une transition vers une science ouverte, plus performante et réactive. Donc c'est pour souligner que vraiment, dans ce document de cadrage politique, vraiment de haut niveau, on parle effectivement de science ouverte. Il est aussi fait mention de la libre circulation des données. On annonce dans ce document une initiative européenne pour 2016 sur la libre circulation des données visant à lutter contre les restrictions à la libre circulation des données pour des raisons autres que la protection des données à caractère personnel, etc. Donc ça, c'est ce qui est le titre qui est donné, c'est le Free Flow of Data. Donc ça, c'est une initiative où on va aussi retrouver ces thématiques d'accès aux données, pas uniquement données de recherche. Et alors, au même endroit, on parle du nuage pour la recherche consacrée à la science ouverte. C'est donc le European Open Science Cloud. Je ne savais pas que ça avait été traduit comme ça en français. Je suis allée voir quelle était la traduction française ce matin. Donc, et puis dans le DSM, pardon, je perds mes feuilles. Dans le DSM, il y a aussi mention du droit d'auteur, évidemment, et de la fouille de données. Et je reviendrai à ça vers la fin de ma présentation. Alors, maintenant, redescendons un cran plus bas à nos thèmes à nous. Pourquoi Open Access ? Enfin, il n'y a pas besoin de le dire en détail devant ce public-ci, mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à tout ça au niveau européen ? Mais évidemment, pour optimiser l'impact de la recherche financée de manière publique. Et alors, à quoi est-ce qu'on s'attend quand on soutient l'Open Access ? Eh bien, on pense que l'Open Access est quelque chose de bon pour la science, qui la rend plus efficace, vérifiable et transparente. Puis c'est aussi quelque chose qui est bon pour l'économie, pour la croissance économique, dans la mesure où l'open access permet à la réutilisation. L'open access permet la réutilisation de ce qui est produit par la science, notamment une réutilisation par l'industrie. Et enfin, l'open access a aussi un aspect positif en termes de société, c'est-à-dire que l'open access rend plus transparente la science aussi pour le citoyen. Et c'est une dimension qu'il ne faut absolument pas oublier. Alors, les deux messieurs en charge du dossier sont d'accord aussi. En juin 2015, il y a une grande conférence sur l'espace de la recherche européen et aussi sur la science ouverte. Et alors, les commissaires Moedas et Oettinger ont déclaré dans un blog que la science ouverte, c'était pour eux de garantir que la science pouvait servir, être au service de l'innovation et de la croissance, et que l'open science garantissait l'open access aux résultats de la recherche et rendait possible le partage des données. Donc ils se sont exprimés quand même très fortement déjà là-dessus. Et alors le commissaire Moedas, le commissaire à la recherche, il continue là-dessus et encore plus fortement. Il a maintenant un agenda qui est connu à Bruxelles comme les trois O, Open Innovation, Open Science, Open to the World. Donc c'est vraiment, maintenant, l'Open Science est vraiment inscrit de manière, je dirais, extrêmement forte à l'agenda européen. J'en viens maintenant à l'Open Access aux données de recherche, notamment dans Horizon 2020. Et je vais vous présenter le pilote sur les données de recherche dans Horizon 2020 à travers une série de questions. Je vais vous dire quels domaines de Horizon 2020 sont concernés par ce pilote. Je vais vous dire ce qu'on entend par données quand on parle de données de recherche dans ce pilote Horizon 2020. Je vous dirai quelles sont les obligations des projets concernés par le pilote, et je vous parlerai un peu de gestion de données, de data management. Donc je commence par l'étendue de ce pilote. Et là, c'est une information nouvelle. Le programme de travail 2016-2017 vient d'être annoncé hier par le commissaire Moedas, justement. Et dans cette documentation, dans l'introduction au programme de travail, vous trouvez la nouvelle étendue de ce pilote que j'ai repris sur ces dias. Donc, la partie... Je reprends mon pense-bête pour la traduction française des parties du programme cadre. Donc, la partie technologie future et émergente avait été couverte avant et reste partie de l'étendue du pilote dans le présent programme de travail. Ensuite, une nouveauté, toute la partie infrastructure de la recherche est reprise maintenant dans le pilote. Avant, c'était uniquement la partie E-infrastructure. Maintenant, c'est toute la partie infrastructure de la recherche. Ensuite, c'est dans le pilier excellence scientifique. Maintenant, j'en viens au pilier primauté industrielle. Et alors là, nous gardons ce que nous avions avant, la partie TIC, technologie de l'information et de la communication. Tout ça reste. Puis nous avons une nouveauté, et c'est des sous-parties de nanotechnologie. Et c'est nanosafety, nanosécurité. Donc ça, c'est de nouveau une partie ajoutée dans le pilote. Ensuite, nous passons aux défis sociétaux. Encore une nouveauté dans le nouveau programme de travail. Une partie de la sécurité alimentaire. Donc là, c'est par topic. Il faut aller voir dans le programme de travail. C'est certains topics, certains calls, certains appels qui font partie du pilote. Nous sommes restés avec la partie du programme cadre climat, environnement, sauf la partie matières premières. Nous avons gardé également la partie société inclusive et novatrice. Et nous avons gardé aussi sciences avec la société. Et enfin, nous avons gardé les villes intelligentes, mais simplement elles ont été bougées d'une partie de l'autre du programme cadre. Ce que j'ai mis là en rouge en dessous, la phrase en rouge est très importante aussi. Donc, si vous ne faites pas partie de cette étendue, de ce scope du pilote, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire partie. Donc, vous pouvez faire un opt-in, vous pourrez volontairement déclarer que vous voulez faire partie de ce pilote. Ce qui est peut-être aussi intéressant, c'est que donc vous avez vu qu'on est passé quand même à une étendue plus importante. Il y a quand même beaucoup de sections qui se sont ajoutées du programme cadre. Et alors, il est peut-être intéressant de dire que ça a été absolument volontaire. Il n'y a eu aucune sollicitation de notre part, ni en interne, ni en externe, ni rien. Simplement, des collègues sont venus vers nous et ont dit « Mais ce pilote Open Research Day, c'est intéressant pour nous aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le prochain programme de travail, en faire partie ?» Et c'est comme ça que ces parties se sont ajoutées. Donc, je reste pendant un moment sur les projets, les sections du programme cadre qui font partie automatiquement du pilote. Ces projets-là ont la possibilité de se retirer, de faire un opt-out. C'est une obligation, une concession politique, je dirais, parce qu'on se rend bien compte qu'il peut y avoir beaucoup de situations dans lesquelles l'ouverture des données n'est pas la meilleure solution, n'est pas la bonne voie. Et donc, vous voyez, sur ce transparent, vous voyez les raisons pour faire un opt-out, pour se retirer. Donc, si le projet ne génère pas de données, d'accord, c'est assez logique. Ensuite, s'il y a un conflit avec l'obligation de protéger les résultats, parce que, comme vous le savez sans doute, le programme Horizon 2020 est un programme recherche et innovation. Donc, il y a une obligation de protéger ce qu'il en sort si on peut produire de l'innovation avec ça. Donc, il existe cette obligation. Et si on rentre en conflit avec cette obligation, ça peut être une raison pour se retirer du pilote. Ensuite, conflit avec les obligations de confidentialité, conflit avec des obligations de sécurité et enfin conflit avec des règles en matière de protection des données. Et enfin un autre, il y a une dernière raison de opt-out et c'est si l'objectif du projet serait mis en... Si l'objectif de mon projet est mis en danger par le fait que j'ouvre mes données, que je fasse partie du pilote. Ça, c'est aussi une raison pour me retirer du pilote. Donc là aussi, je souligne mes petites phrases en rouge. ça, les raisons que j'ai mises là, c'est des raisons pour se retirer au moment de la soumission du projet. Quand vous soumettez votre projet, on vous dira, vous êtes dans le pilote, parce que vous faites partie de l'étendue que je vous ai présentée, mais vous pouvez faire un opt-out et voici les possibilités. Ça, c'est au moment de la soumission. Mais vous pouvez également vous retirer à tout moment pendant la durée du projet. Et c'est très important de communiquer ça aux chercheurs qui ont peut-être des a priori, qui ont peur, etc. Non, on peut tout à fait se retirer pendant s'il y a des bonnes raisons. Et alors, la deuxième phrase en rouge, peut-être encore plus importante, faire partie de ce pilote ne veut pas nécessairement dire devoir tout ouvrir. Ce que ça veut dire, c'est réfléchir aux données de recherche qu'on produit. Ça veut dire faire un data management plan, donc un plan de gestion des données, je vais en reparler bientôt, et se poser la question de savoir ce qu'on va produire et ce qu'on peut partager. Si on ne peut pas partager, expliquer pourquoi. Donc, être dans le pilote ne veut pas dire tout ouvrir. On aurait pu appeler ce pilote « pilote sur la gestion des données ». Ça faisait moins visible, c'était moins visible, c'était moins politiquement frappant. Donc, on est resté avec le Open Research Day, mais en fait, toute l'idée, c'est de faire réfléchir le chercheur à la question de la gestion des données. Alors, quand on est dans ce pilote, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc déjà, quand on dit données de recherche, qu'est-ce qu'on veut dire? On a fait une distinction assez simple. On a dit qu'il y a deux sortes de données principale. Le premier type de données, ce sont ce qu'on appelle les underlying data, donc les données sous-jacentes qui sont liées aux publications. Donc on estime que ce qui est publié déjà dans une publication, eh bien, s'il y a des données nécessaires pour aller valider ce qui a marqué dans la publication, ça c'est le underlying data et en principe il ne devrait pas y avoir de soucis pour ouvrir ces données-là. La deuxième catégorie est beaucoup plus vaste et beaucoup plus vague, c'est « other data », donc tout le reste. Et alors là, on demande au projet, ou plutôt on fait confiance au projet, aux chercheurs, parce qu'on estime que c'est à eux de connaître leurs données, de savoir ce qu'ils vont produire, et d'être les mieux placés pour déterminer ce qu'on peut ouvrir ou non. Donc voilà les types de données. Et alors, que doit-on faire de ces données si on fait partie du pilote? Donc, il y a trois choses, trois parties des obligations. La première, c'est le dépôt. Dépôt des données de recherche dans une archive du choix que le chercheur peut choisir. Donc là, on ne parle pas du tout d'ouverture encore, c'est juste le dépôt. La deuxième partie, c'est prendre des mesures pour rendre possible l'accès, le fait de fouiller les données, d'exploiter, de reproduire et de diffuser gratuitement. Donc, dans cette formulation, vous voyez un peu notre essai, je dirais, d'une définition pour ce que veut dire open access dans le domaine des données. Parce que quand on parle publication, c'est quand même un peu plus restreint. Mais quand on parle données, on parle réutilisation. Et donc, il faut pouvoir faire, en principe, toutes ces choses. Quand on dit « take measures to », prendre des mesures pour, c'est du « best effort ». On essaye de faire ce qu'on peut, mais on comprend quand ce n'est pas possible. C'est aussi la nature d'un pilote. Troisième chose qu'on demande, de nous fournir les informations nécessaires à la réutilisation des données. Parce qu'avoir les données, c'est bien beau, mais souvent, ce n'est pas suffisant. Donc, à ce moment-là, il faut des outils, par exemple des logiciels, pour pouvoir réutiliser ces données réellement. Alors, au minimum, on demande de savoir quels outils sont nécessaires, donc des informations sur ces outils. Si possible, on aimerait les outils eux-mêmes. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas toujours possible. Donc voilà les trois éléments. Dépôt, rendre ouvert comme on peut et donner au minimum des informations sur les outils nécessaires à la réutilisation. Et toujours mes petites phrases en rouge qui résument les choses. Donc l'approche, c'est vraiment aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. C'est vraiment la façon dont on résume le pilote pour enlever la peur aussi qu'ont beaucoup de chercheurs et des participants aussi au niveau des industries, parce qu'on a beaucoup de participants industriels qui se posent des questions et on dit non, ça ne veut pas dire t'ouvrir, ça veut dire fermer, si vraiment on doit. Alors, j'ai déjà abordé la question de la gestion des données. Donc, une partie des obligations dans le pilote, c'est d'établir un plan de gestion des données en déant les 6 mois à partir du début du projet. Les DMP, les Data Management Plan, ne font pas partie de l'évaluation du projet. On ne demande pas de plan de gestion des données au moment de la soumission et donc, évidemment, on ne l'évalue pas. C'est vrai qu'il y a une sous-partie dans le formulaire de soumission qui demande des notions sur le data management, de manière générale et de manière brève. Mais ce n'est pas du tout le plan complet des gestions des données. Mais ce plan de gestion des données qu'on va demander à tous ceux qui sont dans le pilote et que d'ailleurs tous les autres participants à Horizon 2020 peuvent soumettre, même s'ils ne font pas partie du pilote, dans ce DMP, on va poser les questions suivantes. Donc, quelles données seront récoltées ou générées? Quels standards seront utilisés? Quelles métadonnées seront produites? Quelles données seront exploitées? Quelles données seront ouvertes et partagées? Et sinon, pourquoi pas? Et enfin, comment est-ce que les données seront préservées? Donc voilà, c'est vraiment un outil pour expliquer ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire en termes de partage des données. Là, vous voyez les liens vers les documents qui expliquent en plus de profondeur ce que je suis en train de vous dire là sur l'open access et aussi sur la gestion des données. Et alors, j'espère que vous connaissez tous ou presque tous OpenAIR, qui est notre mise en œuvre vraiment de nos politiques open access. C'est un portail, mais c'est beaucoup plus qu'un portail, qui propose des infrastructures pour l'open access et aussi plein d'informations, des help desks, etc. Donc c'est vraiment, je dirais, la mise en œuvre pratique d'open access au niveau européen et pas uniquement au niveau européen, parce que je sais que maintenant, ils acceptent plein de soumissions, de plein de... Enfin, c'est plus uniquement limité à... Bon, c'était FP7 à l'époque et à Horizon 2020. Donc, c'est un projet vraiment qui met en œuvre ce qu'on fait. Et alors, voilà, ça peut aussi vous intéresser. Quelles sont nos premières expériences avec ce pilote? Donc, ce sont les premiers chiffres sur les contrats signés. Donc, sur la base d'environ 3700 contrats Horizon 2020, donc projets signés, sur tous ceux qui devaient faire partie, qui devaient faire partie par défaut, donc ceux qui sont dedans et qui peuvent se retirer, 35% environ se sont retirés. Ça veut dire que 65% sont restés. De l'autre côté, sur tous ceux qui ne devaient pas participer, quand même, presque 12% ont voulu, de manière volontaire, faire un opt-in, ont voulu participer de manière volontaire. Donc, on est assez encouragés, je dirais, par ces chiffres. Et si ça continue comme ça, on aura vraiment une bonne base pour évaluer quel genre de projet c'est, s'ils se retirent, pourquoi, et surtout, on va aller étudier leur data management plan en profondeur pour voir ce qu'ils produisent comme données et ce qu'ils partagent, ce qu'ils ne partagent pas, etc. Donc ici, c'est intéressant aussi, vous voyez les raisons de l'opt-out, les raisons qu'ont eu les projets pour se retirer. Et la première raison, c'est la protection de la propriété intellectuelle. Donc vous voyez là, c'est à 35%, suivi par no data generated. Donc quand même, 17% des projets ont trouvé qu'ils n'avaient pas de données. Et donc ça, c'était une raison pour se retirer. Et ça, normalement, c'est valable. Et ensuite, c'est la protection des données privées. Alors, ce qu'on souligne toujours quand les gens nous posent des questions sur le pilote, c'est que c'est vraiment le moment d'y participer. Parce que y participer maintenant, ça veut dire être co-auteur, en fait, de notre politique pour le prochain programme cadre. Dites-nous maintenant quels sont vos problèmes à l'égard de l'ouverture des données, dans quel domaine ça pose problème, etc. Donc c'est vraiment le moment de faire partie de la chose. C'est un pilote à la fois ambitieux, parce qu'il couvre quand même beaucoup de domaines très très différents les uns des autres, mais aussi très pragmatique, parce que vous l'avez vu, vous pouvez tout ouvrir ou pas du tout. Vous pouvez, si vous êtes hors scope, vous pouvez vous retirer, vous pouvez participer de manière volontaire. Il y a beaucoup de flexibilité dans ce pilote. Donc l'idée, c'est d'en faire partie maintenant, parce qu'il y aura une politique dans le prochain programme cadre, c'est clair. On ne peut pas ne rien dire sur ce thème. Donc je passe maintenant à quelques mots sur le text and data mining, la fouille de données. Alors je vous dis tout de suite que là-dessus, je peux être beaucoup moins précise, parce que simplement, c'est un chantier. On ne sait pas à l'heure actuelle exactement ce qui va se passer. Et c'est beaucoup plus nouveau pour nous aussi. Mais je vais quand même essayer de vous dire deux ou trois choses. Donc, de quoi parle-t-on ? Évidemment, on parle... pourquoi est-ce que ce débat du text and data mining est survient ? C'est évidemment parce qu'il y a de plus en plus de données, notamment à travers Open Access. C'est une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus d'accès aux données. Et alors, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut mieux exploiter ces données qui existent, donc dans les textes, mais aussi des données de tout type. Et alors, quand on parle de TDM au niveau européen, on parle toujours d'accès légal. Donc, quand il y a déjà, par exemple, un abonnement a été payé, ce genre de choses. Donc, on ne parle pas d'accès illégal dans notre contexte. Le TDM est intéressant, notamment pour des raisons de multidisciplinarité, d'interdisciplinarité. Ça permet vraiment de lier des disciplines. C'est un des gains majeurs que l'on voit. Et il faut aussi souligner qu'il n'y a pas uniquement des barrières légales, mais aussi techniques. Bon, pourquoi ça nous importe ? C'est les mêmes raisons. C'est toujours la question d'optimiser l'impact de chaque euro que l'on dépense pour la recherche. Et on a ces signaux de manière très forte de la part du monde des chercheurs. Le cadrage politique pour le TDM est le même que pour Open Access. C'est toujours le marché unique numérique et Open Innovation, Open Science, Open to the World. Donc vous avez les mêmes éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément pour l'instant sur TDM, en attendant évidemment les grandes décisions ? Dans le DSM, le marché unique numérique, il est dit que dans le domaine de la recherche à des fins commerciales et non commerciales, l'absence de cadre juridique clair et les approches nationales divergentes risquent de freiner l'innovation. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la base pour aller plus loin sur le TDM. Mais ce n'est pas uniquement la Commission qui pense ces choses-là, mais aussi les États membres. Nous avons eu, en fin mai de cette année, des conclusions du Conseil qui ont relevé qu'il faut promouvoir une innovation fondée sur l'exploration des textes et des données en tenant compte des besoins de la recherche et prendre en considération l'impact de la réutilisation des contenus qui sont déjà légalement accessibles. Donc nous avons là une sorte de feu vert de la part des États membres. Et alors le Parlement aussi a dit des choses. Le fameux rapport de Julia Reda s'est exprimé sur TDM. Il a souligné la nécessité de permettre des techniques analytiques automatisées des textes et des données, par exemple la fouille de textes et de données à toute fin, pour autant que la permission de lire l'œuvre ait été acquise. Donc, vous voyez là les fondements. Donc, dans le DSM, ce qu'a dit le Parlement et ce qu'ont dit les États membres. Mais ça ne veut pas dire qu'on a une politique. Donc là, je ne peux rien dire de précis. Il est annoncé, peut-être pour la fin de l'année, peut-être un peu plus tard, qu'il y aura quelque chose, un package sur le thème du droit d'auteur, et il y aura sûrement quelque chose sur la fouille de données. Et voilà, merci.
Merci. Merci beaucoup pour cet exposé synthétique, mais qui pointe à la fois quelques avancées, un certain nombre d'avancées. Je crois que c'est important de dire que, quand on parle de l'ouverture des données, ce qui est visé dans le pilote, c'est au moins autant la gestion des données, avoir un plan de gestion, que simplement la question binaire de dire on ouvre ou on n'ouvre pas. Ça me semble très important. Et puis la question sur le TDM et les problèmes de droit d'auteur et de propriété, on sait que c'est au cœur des débats. Je pense qu'on en reparlera un tout petit peu en fin de matinée quand on parlera des positions de Couperin dans le cadre de ce projet de loi sur la République numérique. Voilà. On a le temps pour deux questions. Oui ?
Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Je voudrais revenir sur un point très précis qui est très important pour les chercheurs qui montent des propositions à H20, compte tenu du faible taux de succès. Vous avez précisé que le data management plan ne fait pas partie de l'évaluation. Donc, de manière précise, quand on dépose un projet à H20, quel que soit le pilier, principauté industrielle ou faite, ça veut dire que dans le projet, il n'y a pas le data management plan qui sera juste fourni une fois que le projet est sélectionné. C'est ça que ça veut dire ?
C'est bien ça. Donc, ce qu'il y a au moment de la soumission, c'est juste une question sur la gestion des données de manière générale. Et je ne pense pas qu'on dise combien il faut, quelle quantité il faut produire là-dessus, mais c'est un paragraphe ou deux, une demi-page, je ne sais pas. Mais sûrement pas un plan de gestion des données complet. Et celui-là, par contre, il faudra le fournir pendant les premiers 6 mois du projet. Oui, je confirme.
Je voudrais témoigner en tant que chercheur que c'est extrêmement important, même pour nous quasiment en interne, d'avoir une bonne pratique pour nous-mêmes, déjà pour nous-mêmes, des données. À savoir, si j'ai fait des simulations numériques il y a 10 ans, en général, tout est perdu. Les données, c'est plus où elles sont, c'est plus lisible, c'est plus... Voilà. Donc c'est très important de pouvoir revérifier ses propres données. Et mieux que ça, quand on veut comparer des algorithmes, il faut avoir des jeux de données bien particuliers qui sont les mêmes utilisés par la communauté. Donc, il y a toute une, c'est vraiment une sorte de discipline intellectuelle à s'imposer à soi-même, mais on n'y arrivait pas jusqu'à présent. Et le fait qu'elle soit imposée de l'extérieur, je crois que c'est très, très sain. Et on vous en remercie.
Oui, moi je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. À l'INRA, quand on a réfléchi un peu à ce sujet-là, on s'est posé aussi la question du financement. Parce que bien souvent, on gère ces données pendant la durée d'un projet, mais au-delà, quand le projet se termine, comme les financements ne sont plus là, quand les équipes, par exemple, de biologistes, pour ce qui concerne certains domaines, sont en collaboration avec des informaticiens qui vont gérer leurs données, les informaticiens leur ont dit par le passé plus d'argent, plus de travail, on s'occupe plus de vous donner. Donc, c'est un vrai problème, en fait, sur le long terme, cette question. Et donc, je voulais savoir comment on peut... est-ce qu'il y a des outils, en fait, autres que les fonds des établissements, finalement, pour soutenir cette espèce d'archivage, même s'il y a des consortiums internationaux qui existent dans certains domaines. Je voudrais savoir quelles sont les solutions, à la limite, que vous pourriez proposer pour accompagner finalement cette gestion de données sur le long terme, financièrement.
Oui, on a le même problème, parce que nous, on est limité par en fait le cycle d'un projet. Donc, ce qu'on propose maintenant, c'est que les coûts, les frais pour la préservation des données fassent partie du budget du projet. Mais c'est vrai que par après, on n'a pas de solution. Mais alors, voilà toute la beauté d'un pilote. Une leçon qui peut ressortir, c'est justement de dire, voilà, les coûts pour le data management, la curation après, sont très élevés. Il faudrait prévoir des sous qui ne soient pas dans ce cycle du projet, par exemple. Enfin, on a eu le même débat sur la question de l'open access doré, hein, les frais pour les APC. Et donc là, on a maintenant un autre pilote encore, donc qui met à disposition de l'argent pour les publications ressortissantes après la fin des projets. Donc on pourrait envisager une discussion aussi sur la question des coûts liés à la gestion des données après la fin des projets.
Bon, merci.